Vous êtes sur Radio Grand Air, bienvenue dans votre émission consacrée à la culture et la langue occitane, Parlem Nostra Lingua. Est-ce que j'ai bien dit
non. Le
titre, Jean-Claude, bonjour.
Bonjour tout le monde, Parlem Nostra Lingua, Christophe.
Très bien.
Non, mais c'est parfait.
Notre linguiste, voilà. Jean-Claude Dugros pour l'émission.
Merci de nous accueillir cette émission donc par Radio Grand Air, Parlem Nostra Lingua, et avec aujourd'hui un invité. Un invité de choix, puisqu'il s'agit de Thierry Parsat, que nous connaissons bien, nous, les occitanistes, et même les autres d'ailleurs, puisque ça fait déjà un moment que Thierry court la campagne, la ville, les villes, voilà, avec deux casquettes, une casquette de chanteur dans le groupe Igor, et une casquette de conteur. Peut-être la casquette de conteur est plus récente, peut-être un peu, non ?
Oui, ça date de 3 ans que j'ai commencé.
Voilà.
En fait, j'ai toujours fait le plus ou moins du compte entre les chansons, mais c'était ramassé, quoi. Et puis un jour, on m'a dit, mais tu devrais faire des comptes plus longs. Et j'ai fait, voilà. Et j'y ai pris goût. Et ce qui est encore plus fort, c'est que pour un peu, je préférais faire que de la musique.
Ah, c'est intéressant. Eh bien, écoute, on va t'écouter. Donc, tu vas nous raconter une histoire, nous dire un conte.
Ben, je veux dire un conte que j'ai entendu de la bouche de Henri Gougou. C'est un homme qui habite dans un pays. Il possède une maison en terre, couleur de la terre, avec sur la façade un petit cadran solaire peint à la chaux. À moitié effacé. Cet homme-là, il a un grand loupin de terre devant sa maison, qu'il cultive. Ben, il ne pousse guère que des cailloux. Mais au fond de ce loupin de terre, là-bas, il y a un figuier. Et un figuier énorme, un vieux figuier, quoi, qui a vécu et qui donne beaucoup, beaucoup de fruits. Et cet homme-là, voilà, c'est tout son bien, quoi, mais ça lui suffit. Même des fois, voyez-vous, les journées vous fait chaud. Il va faire la sieste sous son figuier. Et au cours d'une de ces siestes-là, il a fait un rêve. Un rêve est venu. Et ce rêve lui disait, bon, tu vas mettre sous tes pieds le chemin et tu vas partir. Tu vas marcher des jours, des semaines. Tu arriveras devant une ville que tu ne connais pas. Tu iras à la porte principale de la ville, tu rentreras dans la ville, tu parleras avec les gens, tu visites un peu, puis tu iras au marché là, il y a toujours un marché, tu pourras même marchander les légumes, ce que tu veux, voilà. Et puis au bout du marché, là-bas, à gauche, il y a une rue. Cette rue, il faudra la prendre. Elle mène vers un pont qui enjambe la ville, une rivière. Il partage la ville en deux. Mais tu n'iras pas de l'autre côté, surtout pas. Tu descendras à la première pile. Et là, à la première pile, tu trouveras un coffre. Un coffre. Tu l'ouvriras, et dedans, il y aura un trésor. Et ce trésor-là, il est pour toi. Tu peux le prendre. Personne ne te dira rien. C'est à toi. Et il s'est réveillé, et il s'est dit, ce conte est quand même, ce rêve conté, ou ça me, trop quoi dire, ça me... Oh, c'est sûrement un simple rêve banal, quoi. Mais voilà, le rêve est revenu plusieurs fois. Ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, alors attends, je n'ai pas grand-chose, donc je ne perds rien. Et si ce rêve était prémonitoire ? Si j'y allais. Alors un matin, il a fermé sa maison. Il a mis la clé sous une pierre, il a mis le chemin sous ses pieds et il a marché. Des jours, des semaines. Au loin, il a vu à un moment donné une ville. Il s'est approché, il a vu la porte et il est rentré. Il a fait les rues, le marché, au bout du marché, la rue à gauche. Et là, il est allé vers le pont. À un moment donné, il a quand même eu envie de passer de l'autre côté du pont. Puis il s'est rappelé que son rêve lui avait dit non. Alors il est descendu à la pile du pont. Il était sûr de trouver ce qu'il cherchait, bien sûr. Il est arrivé là. Et là, il n'y avait qu'un mendiant. Oh, Il était déçu, déçu. Il s'arrachait pas que les cheveux. Il était en pleurs de rage. Voilà. Il allait même se jeter à l'eau depuis le pont. Mais le mendiant l'a rattrapé par le talon. Il dit, là, mon ami, pourquoi tu veux te tuer aujourd'hui par une si belle journée? On n'est pas bien là. Alors l'homme lui a raconté son rêve. Et le mendiant l'écoutait. Et à un moment donné, il lui dit, dis donc l'homme, tu sais ce que disent les gens de moi ici? Et ils disent, le mendiant là, mais il est fou le mendiant, il est fou. Mais alors toi l'homme, t'es mille fois plus fou que moi. Mille fois, enfin, franchement. Partir comme ça, avec une idée donnée par un rêve, marcher des jours, des semaines, et puis arriver et trouver un trésor. Mais il faut être fou. Ben, je sais bien que je suis un peu fou, puisque je suis trouvé à toi, un mendiant. Et le mendiant lui dit, mais je vais te dire une chose. Moi, ça fait des années que je fais toujours le même rêve. Et ce rêve me dit de partir, de mettre mon soulier, le chemin, de marcher. Que j'arriverai dans un pays, que dans un pays, je trouverai une maison en terre, avec un petit cadran solaire peint dessus, à moitié effacé, qu'il y aura devant un grand champ où ne poussent guère que des cailloux. Et puis au fond, un vieux figuier. Que j'aille prendre dans la maison une pelle, une pioche, et que je creuse un grand trou, mais un très grand trou, toute la journée j'ai creusé. Et le rêve me dit, voilà, au fond, il y a un trésor pour toi. Tu n'as qu'à le prendre, personne ne te dira rien. Et oui, mais moi je ne suis pas fou, je n'y suis jamais allé. Alors l'homme, bien sûr, a reconnu sa maison. Il attrape le mendiant, il est très comme ça, et même il l'embrasse. Non mais franchement, personne n'embrasse un mendiant, personne. Hein, ça ne se fait pas. Et lui, il l'a fait. Et il est reparti chez lui. Il a fait le chemin à l'envers. Arrivé chez lui, il est allé chercher sa pelle, sa pioche, il a creusé toute la journée, il a fait un grand trou. Et savez-vous s'il a trouvé au fond de ce trou tous les rêves et tous les trésors que vous espérez?
Bravo. Alors, il ne reste plus qu'à le traduire en occitan, ce côté.
Oui. Alors, une païsse, il y avait une ombre.
Oh, exactement. Donc, je suppose que dans tous tes contes, que dans toutes tes soirées, il y a des contes en occitan.
Il y en a en occitan, oui. Mais ce n'est pas la majorité. Souvent, le prochain que je vous ferai, il sera vraiment matissé de l'occitan.
Quel est l'accueil du public quand tu racontes un conte en occitan? Ils ne comprennent pas, on comprend.
Non, ceux qui comprennent sont ravis.
Oui,
mais les autres, un peu moins. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il est important de compter dans les deux langues, parce
oui,
que
c'est vrai.
Sinon, on se coupe dans la moitié de la salle, et déjà que les salles ne se remplissent pas trop, souvent.
Si alors, je disais donc que Thierry Parsat est conteur, il vient de le démontrer, mais aussi musicien, puisqu'il fait partie, c'est un créateur, je suppose, du groupe
Igor. Ben oui, on est tous auteurs-compositeurs.
D'accord. Alors, on va écouter un titre, tu nous présentes un titre du dernier CD qui s'appelle Hétérosis, et qui s'appelle La Testomédole. Ah, voilà de l'excellent occitan.
Ah oui.
Alors, La Testomédole, la tête me fait mal, j'ai mal à la tête. Hein.
Thank you. hôtel. Pao camina en confianza, cultiva la nostra diferencia. Menos a mi Europeng y aquí entero de France tornaré mezclando la nuestra influencia.
Belle musique, belle chanson. Alors, une petite histoire peut-être, pourquoi la Testo Médol, ben il explique
qu'en
bien.
Fait, voilà, parce qu'en fait, il voudrait parler occitan.
Eh oui, on a bien compris. Oui.
Veut, voilà, on est obligé de parler français. Voilà, il sait plus trop. il veut pas se départir ni de l'un ni de l'autre.
D'accord. Eh bien, je vais vous parler maintenant de Jasmin. Alors, on en a parlé déjà le mois dernier, si tu te rappelles, Christophe, parce qu'il vient de sortir un livre qui est une sacrée somme, un livre de 700 pages, qui fait pratiquement le tour de la question sur Jasmin. Alors, bon, beaucoup de gens ne savaient pas qui était Jasmin. Jasmin, il était d'Agen, et Dieu sait si les gens qui sont d'Agen ne peuvent pas être mauvais, puisque...
C'est une évidence.
Je suis né à Agen. Et donc voilà, Jasmin était un poète. Alors, il est connu parce que au 19e siècle, il a consacré sa vie entière à faire des soirées de bienfaisance dans toute l'Occitanie, même au-delà. Et il n'a jamais pris un centime, il se faisait payer uniquement ses frais de déplacement. Toutes ces soirées, tous ces concerts, c'était pour la charité. Alors c'était pour des orphelines, c'était pour des associations quelconques, toujours des sociétés de bienfaisance. Et on pense qu'il a ramassé des millions et des millions, et il est mort aussi pauvre qu'il est né. Voilà. Et voilà d'ailleurs comment il raconte comment il est né. Ebbè, perché zucal, perché zu pumeteri, busbau racconta tut memo come nascheri. Bien écruchit, l'autre siècle n'abio qu'une parelle danse a passa sur la terre, quand, al requin d'une bielle carrière, dins une stalle ou maille d'un rat bibio, le DJ au grâce d'arre la porte, alors un fan sauta le pescajou, d'un pays bout de sud d'une maille torte, nasquette une drôle, à quelle drôle, à cause joue. Alors voilà comment il raconte, donc, comment il est né. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit ce siècle, l'autre siècle, il est né en 1798. Donc, il dit, là, quand il parle, bien sûr, on est en 1800 et quelques, il dit l'autre siècle n'avait qu'une paire d'ans à passer sur la terre. Ça rappelle un peu Victor Hugo, ce siècle avait deux ans, déjà Sparte remplacée, etc. Déjà Napoléon percé sous Bonaparte. Et on pense peut-être qu'ils se sont connus parce que Victor Hugo a eu un prix à Toulouse, aux Jeux Floraux, et Jasmin aussi. Donc il n'est pas impossible, qu'on peut toujours rêver, que Jasmin ait rencontré Victor Hugo, mais que surtout que Jasmin a lu Victor Hugo, c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc il est dans le vieux Agen, dans une rue où plus d'un rat vivait, dit-il. Son père était tisserand, il était tailleur d'habits. En fait, voilà, plus exactement, on pense qu'il ramassait les chiffons et puis il faisait des habits avec ça. Et voilà, et donc il dit une paille bout de suite, son père était bossu parce qu'il était comme assis en tailleur, donc il avait peut-être le dos un peu voûté. Et sa mère, elle était percluse de rhumatisme parce qu'elle était lavandière, elle faisait la lessive pour les gens de la ville. Donc il décrit très bien l'ambiance dans laquelle il est né. Sum prinsinaï. Luca nous le salute. À quel salut à nous sur le bonheur. Mais joue, paurette, fil d'une paurette ailleurs. Nat pétadoun annonce ma vengude. Le champi au soul d'un grand chalibari. Que mous bézi fasion à mon bézi. Et sur disquette mas a oreilles biergettes. D'une brute à frousse des cornos des cassettes. Et que benyon fa rebombi que mai. Trente couplets. Cum pausa per mon pai. Alors voilà, donc il dit que c'est intéressant parce qu'il dit mon père composait des chansons pour les charivari. C'était la pleine époque, là, on est au milieu du 19e siècle. Et bon, finalement, on se rend compte que son père, il n'était peut-être pas aussi illettré que peut-être on l'a eu dit, et que Jasmin est né dans un milieu pauvre, mais finalement, son père, il faisait des vers, il écrivait des vers pour les charivaris qu'on donnait à le charivari, c'était quand une veuve se remariait avec un plus jeune qu'elle, ou quand un jeune se remariait, etc. Voilà, c'était un peu, voilà, bon, ouais, c'était pas trop sympa, mais c'était comme ça à l'époque.
Je dors bruit. Mon grand-père qui s'est marié trois fois, et il a eu droit à
un charivari. Ça se passait bien. Il paraît que les gens tapaient à la porte, donc s'ils ouvraient et qu'ils payaient à boire, voilà. Ça allait bien. Par contre, celui qui avait le malheur ou celle qui a de refuser.
Ah oui, mon grand-père, il n'a pas ouvert la porte.
Aïe, et ça, c'est pas
bien. Ça a duré toute la nuit.
Mais sans canou, sans tambour, sans trompette, tape la grandise, les fans del peuple et albresse. Bien un coucade, dit des panels grossiers, tout pétassant, couchade sur ma couinette. Tout sarcido en plumo de la usette, magre, menute, mais nourri d'une bouleille, tant grandissioi comme le fil d'un rey. A tal, l'untem me pupunero, a tal m'han dit que moussetam benguero. Voilà, on a beau être fils de pauvre, mais on peut très bien être sur des édredons en plumes d'alouette, et ma foi, on n'est peut-être pas plus mal que le prince. Qui naît, que le canon salue, etc. Voilà. Donc, c'était Jasmin, c'est un clin d'œil, parce que ce livre que je vous conseille d'acheter, qui s'appelle Jasmin l'Enchanteur, c'est un joli titre, voilà, c'est un livre de Jacques Clouchet, et je pense qu'après ça, ce sera difficile de faire quelque chose, d'écrire quelque chose sur Jasmin, parce que Jacques Clouchet a déjà écrit, d'ailleurs, il a écrit un Jasmin secret, qui est très très intéressant, voilà, donc je crois que c'était un petit coup de pouce aux éditions d'Albret, qui sont en Irak, dans le Lot-et-Garonne, et que c'est une toute petite société d'édition qui a beaucoup de mérite de faire ce livre. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas d'acheter Jasmin l'Enchanteur de Jacques Clouchet.
Est-ce qu'il y a une rémira dans le conte?
Je viens de le recevoir juste là, il y a une heure. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Podi patédise. Eh bien, on va passer un peu de musique. Alors, on continue d'écouter notre ami d'Igor, qui salue Didier Cassier,
toute
l'équipe. Voilà. Et là, posez-vous aussi, là, tous, c'est bon.
Didier Cassier, qui est le patron.
Oui.
Qui est le patron. Et il y a Fabrice Vallée, qui est le saxophoniste. Jean-Claude Bruchel, qui est le monde des beaux. Et le batteur, qui est salué, qui est Philippe Bollard.
Oui, ben, qui est la fine équipe. Ouais. Alors, on a écouté donc un titre qui s'appelle La Veste Rouge, on en parlera tout à l'heure.
La Veste Rouge,
oh. Allez.
Dimo un village, tres guia, o marida. Tres guia, a marida. Bori no mame marida, a que aunque yo la besa rosa, no maná como lume, a que aunque yo puto andarse. Dimo un villazo, tres guia, per fa danza, dimmi un villaggio, tres guia, per fa danza, mori in un ma danza, a che un che io la besta rosa, danza na un lume, a che un che io butto un darde. Dimumbilazo se di Keimi, tres guia. Dimumbilazo se di Keimi, tres guia. Neimi na kumorume, a che unghi io la vesta rosa. Neimi na kumorume, a che unghi io butto un darde. Thank you.
La langue et la culture occitane en musique avec un extrait du dernier album du groupe Igor et Terosis. Et bien sûr, Thierry Parsat va nous parler de plus en détail de ce titre qu'on a écouté à l'instant, hein, Jean-Claude.
La veste rouge.
Oui. La veste rouge, oui. Alors, veste effectivement. Rouge,
oui, alors c'est une jeune femme qui parle, qui dit dans son village, il y a trois garçons à marier, mais qu'elle, elle ne veut se marier qu'avec celui qui a la veste rouge avec les boutons en argent. C'est le premier couplet. Et après, le second couplet dit que dans ce village, il y a trois garçons à marier. Et la fille dit, oui, bien sûr, je danse avec les trois, mais moi, je veux absolument me marier qu'avec celui qui a la veste rouge avec les boutons en argent. Et puis il y a les commères du village qui disent « Oh, elle vous raconte l'histoire à cette gamine, elle les aime tous les trois !» Elle dit « Non, 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 moi je veux me marier avec celui qui a la veste rouge et les boutons en argent. » En argent, allez savoir pourquoi.
Et l'inspiration de vos chansons, c'est ça un peu, c'est un conte, c'est une histoire.
Des fois, ça démarre avec rien.
Oui, oui, oui.
Avec rien. On a une anecdote qu'on cite souvent. On a fait une chanson quand on répétait au studio, donc chez nous. Ma femme a ouvert la porte. Elle est venue voir ce qui se passait parce qu'on était tellement, on avait un fou rire, quoi. D'avoir trouvé ce truc et qu'on était appuyé contre les murs pour ne pas tomber, tellement qu'on riait, quoi. Parce qu'on avait trouvé une idée et on l'exploitait, et on était heureux comme peuvent l'être peut-être des grands musiciens. Mais pour ce soir-là, nous étions des grands musiciens parce qu'on riait de ce qu'on avait fait. Mais c'est des histoires souvent vécues, pas vraiment, non, parce que je ne me suis jamais marié avec trois garçons, mais je veux dire, c'est toujours des idées qui viennent de l'un ou de l'autre.
D'accord.
Et qui sont exploités, soit par la personne qui l'a trouvé, pour les textes, et puis qui fait des fois la musique, comme là, ou alors c'est du travail en commun.
C'est un travail d'équipe.
Il y en a qui va faire la basse, qui va faire la guitare, on discute de tout ça, on met en place, on écoute, et puis c'est toujours de toute manière celui qui a amené l'idée qui reste le maître du jeu. C'est-à-dire, oui, ben là, la basse, je ne la veux pas comme ça, et voilà, il impose son jeu. Mais très souvent, on se connaît tellement que ça marche du premier coup, quoi.
Alors on va bien sûr poursuivre notre chemin dans l'émission consacrée à la culture et à la langue occitane. On va faire un petit peu d'histoire comme chaque mois sur Radio Grand Air. Souvenez-vous, le mois dernier, Jean-Claude nous avait amené du côté de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat.
Oui.
Et cette fois-ci, on va se déplacer légèrement à côté dans un petit village qui est situé tout près de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat.
Voilà, Fougueyrol.
Très bien,
est-ce
Jean-Claude.
Est-ce que je l'ai dit correctement?
Exactement.
Alors, en français, on dit Fougueyrol.
Oui, c'est ça.
Et en occitan, comment on dit?
Alors, la question...
Comment ça, Christophe? Tu ne le sais pas. Non, mais franchement...
Je vais noter.
On dit Fougueyrol. Fougueyrol. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, en occitan? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Bah, une pousse des girolles, peut-être.
Non, c'est le sud-occitan Fougueyrol qui veut dire une terre couverte de fougères. Voilà. C'est le latin filicaria. Là, je fais un peu le hein, pour les gens qui vont me dire non, non, c'est pas ça. Bon, je suis désolé, excusez-moi, mais bon. Voilà, filicaria auquel on ajoute olo, et on trouve souvent ce suffixe occitan olo qui est un suffixe qui veut dire un endroit planté de. Voilà. Donc Fougueyrol, la première attestation date de 1306, ça ne rajeunit pas, Christophe. Fougueyrol en 1324, vous voyez déjà, hein, alors c'est vrai qu'on a l'incidence Fougueyrol et Fougueyrol, c'est le sud-occitan Al et le nord-occitan ou le Gascon, parce qu'on n'est pas loin du Gascon, Au. Au, voilà. Donc ça c'est intéressant parce que là on voit justement l'évolution de la langue. C'est un ancien repère noble et le seigneur était fondateur des églises de Fougueyrol, du Tisa, du Canet et de la Rouquette.
Voilà, donc on se rapproche encore de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat.
Exactement. Fougueyrol, Voilà, et on le trouve dans le livre de vie à 1381, donc c'est très ancien. Alors bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi on dit Fougueirol au lieu de dire Fougueirol, mais bon. Donc on a aussi dans le Lot-et-Garonne Fougueirol et on a Feugarol. Alors c'est intéressant parce que en fait, la langue n'est pas fixée. On est au Moyen Âge, on est à une époque où on dit le nom, on le dit, c'est oral. C'est pas écrit. Donc, suivant la personne qui le dit, ben, elle va le déformer ou elle va mal le prononcer. Et c'est la même chose. Que ce soit Fougueirol ou que ce soit Feugarol, c'est exactement la même chose. Ce sont des variantes l'une de l'autre. Voilà, autant de lieux qui indiquent des fougères, des fougerets en français, on dirait. Et alors, on nous dit qu'ils fournissaient une litière de choix pour le bétail. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, évidemment, il y avait beaucoup plus de bétail qu'aujourd'hui. Et ce n'était pas forcément de la paille qu'on utilisait pour faire la litière des animaux, mais on utilisait ce qu'on trouvait, c'est-à-dire les fougères à la campagne. Voilà. Et donc, on trouve cet toponyme, de nombreux toponymes, et on le trouve jusque dans le Gers, puisqu'on a le Ouga, dans le Gers. Le Ouga, ben, ça veut dire simplement la fougère. Et voilà, on a Falgeirat à côté d'Aimé, c'est pareil, c'est la même chose. Falgeirat, c'est un endroit planté de fougères. C'est un toponyme, c'est une racine qui est très très riche, parce que ça prouve qu'autrefois, l'agriculture, la culture, les gens, 90% des gens ne vivaient que de ça, pratiquement. Et donc, nos anciens, qui savaient ni lire ni écrire, il fallait absolument qu'ils désignent très précisément un endroit. Pour ne pas le confondre avec un autre, etc. C'est pour ça qu'on trouve de très très nombreuses variantes. Fougueirol.
Très bien, Jean-Claude. Alors, petite parenthèse, Fougueirol se trouve donc, on l'a dit, tout près de Port-Sainte-Foy et Pontchâtre, avec toujours cette particularité d'avoir un code postal de Gironde, mais on rappelle bien à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement, c'est bien une commune de Dordogne et qui se trouve en Périgord blanc.
Ah oui.
Ah, oui, parce que le Périgord blanc, voilà, le Périgord blanc, ça va jusqu'à Montpont. Enfin, on est en limite, d'après ce que je peux voir sur la carte.
On pourrait les mettre Périgord pourpre, parce que c'est Bergerac, et non, il semblerait
on est,
que...
On est vraiment entre deux, ouais. Et c'est vrai qu'on est en bout de ligne, pour Sainte-Foy, Fougueirol...
Est-ce qu'il y a l'appellation Bergerac, est-ce qu'elle va jusque-là? Parce que je sais qu'elle va jusque...
Je sais plus, non.
Elle va loin, là, l'appellation...
Côte de Bergerac...
Pour Sainte-Foy, c'est
une bonne question, je ne sais plus.
Appellation Bergerac,
Mont
Ravel. Écoute, on va
lancer un appel à... Effectivement, on est...
Ah oui, mais là, Mont-Ravel, on est plus loin, là.
C'est pas très, très loin.
Ah oui. Ah, mais c'est peut-être... On va lancer un appel à nos auditeurs.
Voilà, on lance un appel, et si vous avez la réponse, n'hésitez pas, je vous donnerai le numéro privé de Jean-Claude Dugros à la fin de l'émission.
Bon, eh bien, écoute, on va continuer avec Thierry.
Oui, mais moi, je vais renchérir. Je vais laisser un CD à Christophe, et la personne qui donnera la bonne réponse...
Ah, très bien. C'est sympa, voilà. On va le mettre, effectivement.
Alors, quelle était on peut répéter la question pour pas qu'il y ait de confusion. Où se trouve la limite, en fait, du Périgord pourpre et du
Exactement.
Périgord blanc?
Et si vous avez la réponse, vous n'hésitez pas, vous nous laissez vos petits messages sur notre page Facebook de la radio.
Ça nous fera plaisir.
La Radio Grand Air, ça nous fera plaisir. Un petit coucou aussi. Et vous remporterez, merci Thierry, pour ce petit cadeau du groupe Igor, le dernier album Hétérosis, que vous avez pu écouter il y a quelques instants dans l'émission. Un bel album qui a été réalisé, bien sûr, par nos amis d'Igor, tout récemment.
Voilà. Et on va rebondir donc sur Igor, puisque Thierry, qui nous a tout à l'heure raconté un conte, va nous en raconter un autre, et puis peut-être nous le commenter et nous expliquer, il nous a déjà dit d'où venaient ces contes, mais on peut peut-être le redire encore, parce que c'est très intéressant, la mémoire, c'est quelque chose de très riche, et malheureusement aujourd'hui, elle a tendance à disparaître un peu, donc il faut absolument à tout prix la sauvegarder.
C'est ce que dit Henri Bougon, hein. Une histoire dite aujourd'hui, c'est pas un conte, c'est une histoire. Si elle passe les années, les siècles, ça devient un conte. Et la plupart des contes, pour ça que la plupart des contes, même qui sont revisités par des gens comme nous, ont des racines profondes qui remontent dans le temps. Quoi. Le prochain que je vais vous faire, c'est aussi Henri Hugo qui me l'a fait découvrir, qui s'appelle « Le berger et le soleil ». Alors, c'était un berger qui habitait... là-haut, dans la montagne. Il y passait le plus clair de son temps avec ses bêtes. Alors, attendez-vous à voir dans ce berger un homme âgé, avec un grand manteau, plein de trous, de poussière, et qui sent mauvais. Aussi, ça sent le mouton, quoi, c'est le renard. Et cet homme-là descend, mais alors très très rarement au village. Pourtant, un jour, il y descend. Et là, il passe devant le parvis de l'église. Et le curé le voit. Il dit, mais c'est mon berger, ça. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là-haut, tout seul, dans la, toute la journée, là, en montagne, avec ses bêtes? Alors il appelle, hé, toi, viens là un peu, viens me voir. Alors vous savez, comme on était à l'époque devant un curé, quoi, on était quand même respectueux, minimum. Alors il s'avance, il sort son chapeau poussiéreux, lui aussi, plein de trous, il le tourne devant lui, comme ça, comme un mauvais élève, et oui, monsieur le curé, dis donc, qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi, là-bas, en haut de la montagne? Ah, ben, monsieur le curé, moi, le matin, je me lève. Oui, d'accord, tu te lèves, oui, mais moi aussi, oui. Mais qu'est-ce que tu fais de toute ta journée? Ah, ben, le soir, je me couche. Oui, bon, d'accord, tu te lèves et tu te couches. Mais qu'est-ce que tu fais donc toute la journée dans la montagne? Ah, ben, je m'occupe des bêtes, j'ai du travail, quand même. Oh oui, non, mais tu vas quand même pas me dire que tu vas pas trouver 5 minutes. Enfin, tu comprends pas ce que je veux te dire. Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Est-ce que tu fais tes prières, au moins? Ah, monsieur le curé, vous savez, comme je vous l'ai dit, le matin, je me lève. Oui, d'accord. Et tu te lèves. Et alors? Eh bien, quand je me lève, c'est quand le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, il est en face de ma porte, de ma cabane de berger, là. Alors, quand il arrive, je lui dis, oh du ciel, soleil! Bonjour, soleil! Ah, tu dis bonjour au soleil? Et oui, je dis bonjour au soleil, oui. Et comme je suis content, parce qu'il me réchauffe de la nuit froide, je lui dis, merci plein, soleil! Merci, soleil! Ah, tu remercies le soleil. Et oui, monsieur le curé, putain, voyez-vous, des fois, je suis tellement heureux d'être dans la montagne, comme ça. Je me roule dans l'herbe. Ah, et tu te roules dans l'herbe, oui. Et puis comme je suis poli, monsieur le curé, quand le soleil se couche, je fais le tour de ma cabane, je vais de l'autre côté, et je lui dis, oh, d'ici à le soleil, oh, doucement, au revoir soleil, à demain. Dis donc, si je récapitule, tu dis bonjour au soleil, tu remercies le soleil, tu te roules dans l'herbe, et tu dis au revoir au soleil. Eh oui, monsieur le curé. Mais ça, mon ami, c'est du paganisme, ça. C'est du paganisme. Allez, ouf, hop, dans l'église, au confessionnal, grande lessive. Et le curé prend le pas de bourse pour aller à l'église. Il s'installe le confessionnal, il met les tôles, prend le missel et tout. Et le berger, il suit, mais avec un pas de berger, c'est-à-dire un pas mesuré. Il rentre dans l'église et le curé le voit. Il dit, allez, dépêche-toi, viens là, approche-toi un peu. Et puis quitte-moi ce grand manteau, là, percé de 1000 trous, qui pue le renard, là. Le curé, il est énervé un peu, parce qu'il traîne le... Alors il grappe son manteau, le berger, il pose son chapeau, et puis il cherche un endroit pour accrocher son manteau. Mais bon, vous n'aurez qu'à vérifier la prochaine fois, dans les églises, il n'y a pas de porte-manteau. Jamais. Alors, il est embêté, quoi, ce berger. C'est à ce moment-là qu'un rayon de soleil passe par le vitrail et vient éclairer les pieds du berger. Et le curé, il dit, ben tiens, voilà ton grand ami le soleil, t'as qu'à lui confier ton manteau. Et le berger lui dit, mais monsieur le curé, c'est une très bonne idée ça. Ah oui, c'est une très bonne idée. Et le berger pose sur le rayon de soleil son manteau. À ce stade-là de l'histoire, les chemins peuvent diverger. Il y a ceux qui ont vu tomber par terre le manteau, lamentablement, comme une vieille serpillière, et puis les autres qui ont vu, allez, même imaginer, juste imaginer que le manteau restait là, accroché sur le rayon de soleil. Alors ceux-là, ils sont prêts à écouter nos histoires, qui sont comme ce manteau de berger, vieille, poussiéreuse, percé de 1000 trous, mais qui reste parfois accroché à un rayon de soleil.
Bravo. Elle est belle, celle-là. Et donc, tu me disais tout à l'heure que c'était un conte soufi.
Le premier.
Ah, le premier, pardon. D'accord. Voilà. Voilà. Oui, donc ce qui prouve que L'origine de ces contes-là, elle est très variée, elle est très diverse.
Oui, oui. Voilà.
Et encore une fois, c'est vrai que les contes, c'est très important.
Bah, comme le prunier de misère, tout ça, c'est des contes qui parlent d'un arbre qui a des pouvoirs, et on le retrouve dans beaucoup de cultures.
C'est vrai. Eh bien, nous allons continuer à écouter nos amis d'Igor. Alors, tu vas le présenter, mais Thierry, c'est en français, ne pas laisser le temps au temps, mais il y a de l'occitan dedans.
Voilà,
on en parlera tout à l'heure. Ça.
Il faut que l'on s'enlace avant que nos corps se lassent. Se sourire aussi. Ne pas oublier ce qui nous lie. Ne pas laisser le temps laminer nos sentiments. Échappe à l'outin, esclavage des sentiments. Comme des enfants chipper du sucre glace sur le gâteau, là sur la table basse. Ne pas laisser le temps apaiser nos cœurs d'enfants. De chape à l'outin, apaisera nos cœurs des drôles. Savoir essuyer la larme qui passe, se sourire aussi, balayer les soucis, ne pas laisser le temps nous rendre indifférents. Échappe à l'outin, s'enlace avant que nos corps se lassent. Se sourire aussi, ne pas oublier ce qui nous lie. Ne pas laisser le temps laminer nos sentiments. Échappe à l'outin, esclaffa nos pressentiments. Esclaffa nostri sentiment, échappe à l'outin, esclaffa notre sentiment, échappe à l'outin, esclaffa notre sentiment, échappe à l'outin, esclaffa notre sentiment.
Le groupe Igor de retour avec ce magnifique album qu'on vous rappelle, que vous pouvez d'ailleurs bien évidemment vous procurer et à gagner sur Radio Grand Air. Merci oui. Thierry d'être venu avec ce petit cadeau. À l'instant, une chanson en français sur l'album, Ne pas laisser le temps.
Oui, c'est une chanson d'amour en fait, Ne pas laisser le temps, abîmer nos sentiments. Et on a voulu la faire français en occitan celle-là parce que ça sonnait bien en occitan aussi. Et comme c'est Jean-Claude qui tenait à la chanter, je l'avais écrite pour moi, mais elle est bien celle-là, je la chante très bien, moi. Ah ben, tu la chantes.
Oui, c'est ça, l'esprit d'équipe, oui, en fait.
Voilà, donc, on a conservé, moi je fais l'Occitan, et lui fait... Ben voilà, c'est une chanson d'amour, c'est comme il y en a, chez Igor aussi, il n'y a pas que des couillonnades.
Voilà. Eh bien, écoute, Thierry, tu vas peut-être nous parler de l'agenda de Igor, de ce qui est prévu dans cette année 2022, en espérant qu'après 2 ans de disette, on reprenne des activités tout à fait normales, tout à fait organisées, qu'on puisse revivre à nouveau.
Ben, j'espère bien, oui. Nous sommes des amateurs, donc on n'a pas les mêmes impératifs que ceux qui vivent de ça. Donc nous, la première date, ça va être le 11 juin, c'est un samedi, c'est à Palayrac, c'est du côté du Buisson de Cadouin, là-bas. C'est un festival qui débute, c'est un festival acoustique, donc il n'y aura que des cordes. Il n'y aura que des cordes, pas de batterie, pas de basse, pas d'instrument électrique, voilà. Donc on va y participer, mais avec 3 entités. Igor, mais version acoustique, c'est-à-dire sans batterie. Il y aura aussi Tifa, qui est un duo de Fabrice, le saxophoniste, et moi. Donc là, on fera un duo de création de morceaux qui sont Vielle à roue et au bois. Et ensuite, il y aura les Déménageurs, qui sont les 2 autres membres du groupe, Didier Cassier et Jean-Claude Buchez, qui feront en acoustique des chansons qu'ils ont écrites, eux, voilà, pour cette formation-là. La fée librée, ben on ne sait pas. On verra. Pour l'instant, le programme n'est pas sorti, donc on ne sait pas. On attend patiemment. La fête de la musique, normalement, ça devrait être sur Prigonrieux, dans la belle halle de Prigonrieux. La force, ah ben oui, la force le 9 septembre, festival Esfarg. On fera la première partie du groupe Humus Machine.
Ah oui.
Voilà, avec Surpa, je crois qu'il est dedans. Voilà. Le samedi 29 octobre, ben voilà, là on sera pour le mois du Lébérou, on fera la première partie du groupe Peyragudes, ben, en version acoustique toujours. C'est un peu la demande actuellement, l'acoustique revient. Et nous, ça ne nous dérange pas parce que ça nous permet de travailler des anciennes chansons que l'on remet au goût du jour et qui finalement on s'aperçoit que c'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Et donc, Peyragudes, je ne sais pas quand ça sera le 29 octobre, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si ça sera à Sarlat ou à Montignac. Et c'est l'ouverture, enfin, non, c'est pas l'ouverture. L'ouverture, c'est la marche comptée. Ben, ça sera pour le compte du Libéraux.
Le compte du Libéraux, oui.
Ouais, le mois. Ensuite, bon, alors, pour ce qui est des comptes, moi je vais aller, le 10 avril, je vais faire une présentation privée, en quelque sorte, à l'ébénisterie. Je vais leur proposer mes comptes pour adultes, pour enfants, et voilà. Et on va voir si on peut s'entendre, faire une date peut-être chez eux, ou à voir quoi.
Voilà, l'ébénisterie, on rappelle, c'est à Sainte-Foy-la-Grande, petite salle intimiste avec l'association Le Club à Galiao qui est très très actif sur Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre à l'ébénisterie, rue Chanzy tout simplement.
Voilà, c'est donc je vais aller leur présenter mon travail de compte et on verra. Le 13 mai, je vais à France Alzheimer, à Bergerac, au Tortouni. Bah, Tortouni, je vais compter pour les aidants, les accompagnants et les gens atteints d'Alzheimer. Voilà. Eh bien, voilà, on a fait le plus gros, en espérant qu'il y en aura d'autres pour cette année, mais voilà. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en acoustique. Donc, peut-être qu'on va, essayer de travailler ça, parce qu'il y a des choses à faire. Voilà, je ne prends pas plus de temps.
C'est vrai que tu dis on est des amateurs, mais il faut quand même souligner la qualité du travail. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais en fait, quand on écoute les chansons, quand on écoute la musique, quand on écoute les orchestrations, l'enregistrement, c'est quand même c'est du bel amateurisme.
Oui,
bah, c'est quand même très agréable.
Parce que ça dure depuis 1983.
En plus, aussi. Voilà, oui, c'est quand
Donc,
même...
On a appris à jouer un peu, on a appris à... Puis Didier fait un gros travail d'enregistrement, tout se fait chez nous. Donc, entre parenthèses, Didier aussi fait beaucoup de travail, puisqu'il a fait une maquette pour Daniel Mouvier, un conteur. Il a fait un CD aussi pour un homme qui s'appelle, ça y est, j'ai mangé le nom, voilà, ça c'est l'âge, ça va me revenir, qui a fait des chansons dans sa jeunesse et qui désirait les enregistrer. Donc c'est tout passé à la maison, tout enregistré, et Didier a fait tous les mixages et tout ça. Et il s'appelle... voilà.
Bon. On va dire avant la fin de l'émission, je suis sûr que ça va me revenir.
Oui, oui.
Alors, quand tu penses que tu vas jouer pour Alzheimer, fais attention.
Oui, parce c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est un traquenard, ça se trouve, ils ne vont pas me relâcher. Quoi.
Oui.
C'est ma femme qui s'en est occupée, alors peut-être.
Alors parmi les nouveautés, on va parler des nouveautés. Alors bon, les nouveautés, moi, il y a le livre de Jasmine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis bon, il y a toujours l'actualité Peyragudes, puisque Peyragudes viennent de faire un travail remarquable avec l'anthologie de leurs chansons, donc depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a je crois 103 chansons, des choses comme ça. Ensuite, il y a les CD, il y a 3 CD de leurs chansons, et puis le dernier CD donc qui s'appelle Caminarem. Voilà, donc il faut, on donne un coup de chapeau bien, bien sympathique à nos amis de Peyragudes qui ont marqué leur époque, mais qui continuent à la marquer aujourd'hui. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, c'est vrai qu'on fait partie des gens anciens, mais qui sont toujours vivants, et ce qui n'est pas toujours, hélas, ce qui n'est pas toujours le cas.
Pardon, excusez-moi, je te coupe. Nous, si on s'est mis à faire le groupe et à chanter français et occitan, c'est par rapport à Peyragudes.
Ah oui, ben ouais.
Parce qu'on avait été voir plusieurs fois Peyragudes, et comme Didier grattait un peu, moi aussi, on s'est dit, ben, pourquoi on n'essayait pas de faire des chansons? Et puis, quand t'as fait faire la chanson, ben, on va faire la chanson occitane. C'est Peyragudes, voilà.
C'est lui qui vous a...
C'est un monument de la culture occitane.
Oui, c'est vrai. Eh bien, on va écouter une chanson de Peyragudes, dans une des dernières chansons, qui s'appelle « Caminarem, Marti ».
Io prigioniero in cadena che non mantengo un tiro per io. Tu dici io tornerò a prendere l'aio sinco alla fondo del poi dell'Iuda. Camminare Claudi, camminare Marti, camminare Claudi, camminare Marti. Di io se cudren le codeno, senza oblida l'amore e la verità. Tu di io ne arenno tropeno, e se relire sembore giù fa. Camminare Claudi, camminare Marti, camminare Claudi, camminare Marti. Un pacchi su bella e cadena, su ne tuzzato il funne notre ca. Sovi un pacchi tuzzurla e cadena, se per i sunni notre curvora. Camminare Claudi, camminare Marti, camminare Claudi, camminare Marti. Io bel ten lo gridavo, c'è dell'iura coi chita dei servi. La servitudo è tutto sur volontario, l'ura e scennu se pudrio panuiri. Camminare Claudi, camminare Marti, camminare Claudi, camminare Marti. Mes amis, ora l'uven si leva, se il vertadie è cutto nu canta. Mes amis, ora l'uven si leva, devi urre leu de bennuse forza. Camminare Claudi, camminare Marti, camminare Claudi, camminare Marti. Camminare Marti, camminare Claudi.
scurvasse e seguirem Luca Bianco e Biurem e Biurem al país matti.
Voilà, Caminare Marti, donc Marti, c'est Claude Marti, c'est un pionnier de la chanson occitane. On est du temps du Larzac, là. Vous n'étiez pas né, Christophe et Thierry, mais c'est vrai qu'à cette époque-là,
si, quand même.
C'était quand même...
J'étais au Larzac, j'étais Caillou.
Voilà, donc c'était une grande époque. Et c'est, voilà, Peyragudes dit souvent qu'ils ont été inspirés par Marti. Igor dit qu'il a été inspiré par Peyragudes. Donc c'est une chaîne, c'est ça qui est intéressant, c'est la transmission. Tout le temps, il y a toujours un maillon de la chaîne qui continue. Voilà, ça c'est très très bien. Merci beaucoup Thierry d'être venu parler notre langue, donc notre émission Radio Grand Air, réalisée par notre ami Christophe Bouillac.
Merci Christophe. Pour...
Merci Christophe.
Ça est toujours avec grand plaisir, mes amis. Vous revenez quand vous voulez ici, dans les studios de Radio Grand Air, situés en Gironde, aux portes du Périgord, je le précise, à deux pas. Nous sommes à Saint-Avis-Saint-Nazaire.
Voilà, donc c'est ni pourpre, ni blanc, ni vert. Ici, on est en Gironde, donc il n'y a pas, pas de souci.
Nous sommes en terrain neutre, mon cher Jean-Claude.
Voilà, mais on va dire à Dichas, donc à tous nos amis, à tous nos auditeurs. Vous n'avez pas beaucoup entendu d'occitan aujourd'hui, beaucoup de français, mais on respecte toutes les langues. Nous, on n'est pas du tout sectaire. Et j'espère que les gens, justement, qui ne comprennent pas trop l'occitan ou qui ne l'entendent pas trop bien, ils continueront à écouter parler notre langue, parce que, justement, on parle et occitan et français. Peut-être même un jour, on parlera espagnol ou italien, on verra. Un peu plus tard. Voilà, merci beaucoup. À des chasses tout le monde.
À des chasses tout le monde. Et quand il y a un plaisir d'être ici.
La primera blanco e lo seco e lo mulinetto me e lo mulinetto me se na fallo pulito fisce.
smile.